fois, donc dimanche dernier, on avait vu que le Seigneur Jésus, après être tenté par le diable, a fait le serment sur la montagne. Et nous, nous avons vu que tout ce qu'il avait dit était une exhortation pour nous à mettre en pratique sa parole. Et donc, ce qui comptait, c'est non pas d'écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Et que celui qui la met en pratique a bâti sa maison sur le roc. Celui qui ne écoute et ne met pas en pratique a bâti sa maison sur le sable. Et quand il y a la tempête, toutes les épreuves de la vie, ou toutes les attaques de l'ennemi, eh bien, à ce moment-là, si elle est bâtie sur le sable, notre maison est détruite. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons voir le passage dans Matthieu 4, chapitre 1 à 11. Donc, c'est avant le discours sur la montagne où le Seigneur a été tenté et a résisté au diable. Alors, je vais prier avant de commencer. Oui, Père Céleste, nous avons besoin de ton soutien par ton Saint-Esprit pour que nous comprenions ta parole, pour que nous la mettions en pratique, pour qu'elle soit une nourriture pour nous, pour qu'elle nous aide à avancer, pour que nous soyons fermes dans la foi, que nous puissions faire face aux détracteurs, faire face à ceux qui nous demandent la raison de notre foi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, en ce moment, que tu sois glorifié, que chacun puisse recevoir de ta part. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous avez pu lire la parole de Dieu. C'est difficile, hein? Peut-être, justement, si vous avez décidé, par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, de la mettre en pratique, peut-être vous avez vu qu'il y avait de l'opposition et que plus vous décidez, plus il y a de l'opposition. Et il y a une victoire à obtenir. C'est une discipline. Et puis après, peut-être on peut passer un cap où eh bien, on la lit systématiquement, tous les jours. Mais il faut toujours combattre parce que sinon, il arrive un moment où on s'endort, on s'assoupit. Et puis... on oublie, et le combat, eh bien, il se fait de moins en moins en étant prêt, et puis finalement, on s'éloigne un peu. Donc, ce sont des choses qu'on doit rappeler sans cesse, et que ce soit au début de la vie chrétienne, mais ce soit aussi des années, des dizaines d'années après, parce qu'on se relâche, et on peut dire... Eh bien, moi je la connais, la parole de Dieu. Et puis, finalement, on oublie ce qui est important dans les situations où on a besoin de se rappeler ce que le Seigneur nous dit, pour faire face aux circonstances. Alors, ici, on va lire Matthieu 4, 1 à 11. Donc, rappelez-vous, juste avant, eh bien... le Seigneur a été baptisé et puis l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute affection. Et alors après, chapitre 4, versets 1 à 11, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est ce passage que nous avions surtout illustré, hein, utilisé en illustration. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Je vois un petit peu parce que... Alors, les enfants aiment les super-héros. Ça, c'est... Il n'y a pas de doute. Mais aussi les personnes adultes. Hein. Alors, il n'y a qu'à voir le succès des BD. Et maintenant, des films. Et on appelle les Marvel. Hein. Donc... chacun veut que Superman sauve la planète et que rien ne change. Que tout continue comme avant. Et en fait, c'est pareil quand Jésus est venu. Les siens, le peuple d'Israël, voulaient qu'il se débarrasse des Romains et qu'il fasse... des miracles pour que tout aille bien pour eux. Alors, Jésus leur a dit, en fait, vous me suivez pour ça. Et bien, lui a dit, eh bien non. Et donc, finalement, ils ont rejeté Jésus. Est-ce que Jésus n'était qu'un super-héros ? Qu'un Superman pour eux. Et pour nous, qui est-il? C'est important de se poser la question, qui est Jésus pour nous? Alors, Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 7, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et il est dit, verset 8, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et puis Jésus a dit, au chapitre 11, verset 6 de Matthieu, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, beaucoup de gens s'égarent, se perdent, parce qu'ils ne croient pas à la révélation de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu, et elle nous éclaire sur ce qui est Jésus. Et c'est important de se baser sur la parole de Dieu. La multitude préfère se faire un Jésus-Christ à sa façon. Et donc, on peut rencontrer des gens... qui nous parle, j'en ai rencontré jeudi au marché, hein, mais qui nous disent ben Jésus, il n'est pas Dieu. Mais voilà. Alors, ils ont toutes de bonnes raisons, et ce qui est formidable, c'est qu'ils citent la parole de Dieu, comme le diable. Et donc, nous devons répondre. Et nous voyons que Jésus nous donne l'exemple, hein. Il dit toujours, il est écrit. Il est aussi écrit. Et donc, il est important de connaître cette parole de Dieu. Et donc, de ne pas nous faire un Jésus qui nous ressemble ou qu'on imagine, mais tel qu'il est dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu fait homme. En fait, qu'il y a deux natures en lui. une divine, une humaine, en une seule personne. Alors, comme il a été dit, la Bible place la divinité et l'humanité de Jésus-Christ en juxtaposition intime. C'est théologiens qui disent ça, hein, ça nous aide à comprendre. Et je vous citerai aussi quelques formules qui nous aident à comprendre, hein, de théologiens. Alors, le problème, c'est que les hommes, ne pouvant le comprendre, le rejettent. Et ils préfèrent penser que c'est un surhomme, ou alors un homme super. Et ils disent qu'il avait des pouvoirs, et puis il était hyper intelligent, il était bon, etc. Et donc, il y a beaucoup de concessions de Dieu, mais il y en a beaucoup aussi de Jésus-Christ. Vous pouvez rencontrer des gens qui parlent de Dieu d'une manière et vous ne le reconnaissez pas, c'est votre Dieu. Et pour Jésus-Christ, c'est pareil. Hein. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il fallait que quelqu'un de parfait paye pour les péchés de tous les hommes, pour que ceux-ci soient sauvés, soient réconciliés avec Dieu et puissent avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu. Il fallait qu'il soit un homme pour payer pour tous les hommes. Donc, Dieu s'est fait homme. Alors, était-il toujours Dieu ? Oui, il était toujours Dieu. Était-il tout à fait homme ? Oui, il était tout à fait homme. Alors, on peut lire Hébreux 2,14 qui nous éclaire. Alors, c'est des versets que j'aurais pu citer pour la Sainte Cène. Hein. Alors, dans Hébreux 2,14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » On peut lire versets 17 à 18. « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. En ne comprenant pas cela, ou en ne l'acceptant pas, Jésus devient une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Alors, il y a un passage dans la parole de Dieu qui est une confession de foi que les chrétiens proclamaient et qui est un résumé explicite concernant le Seigneur Jésus-Christ. Là, on peut le lire. C'est dans Philippiens, au chapitre 2. Alors, versets 5 à 11, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, il nous est dit là, verset 7, « En devenant semblable aux hommes. » Et semblable, ça marque autant une similitude que aussi la différence. Parce que, bien que son humanité ait été authentique, eh bien, il était différent de tous les humains. Pourquoi ? Mais car il était sans péché. Voilà. Et il fut conçu dans le sein de Marie. par le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Et on peut voir 2 Corinthiens 8, 9. Et il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, on a posé la question, Jésus, écoutez alors, faut pas vous embrouiller, Jésus était-il incapable de pécher ou capable de ne pas pécher? Alors, s'il avait été incapable de pécher, il n'aurait pas été un homme comme nous. On peut traduire le verset 7, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Alors, ce qui le rendait différent, c'était sa capacité de ne pas pécher. Alors, depuis Adam, aucun homme n'a résisté à la tentation. Alors, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lève le doigt. Alors, seul Jésus l'a fait. Alors, dans Matthieu 4, nous voyons que après 40 jours de jeûne, eh bien, Jésus a été tenté pour manger et pour changer les pierres en pain. Eh bien, moi, je crois que si j'avais été 5 jours, mais je dis 5 jours, mais peut-être moins, de manger, eh bien, si j'étais tenté, ça serait très très dur. Hein. Pour faire me suicider, peut-être, j'en sais rien, mais ça serait énorme. Mais 40 jours, 40 jours sans manger, et puis il est tenté de changer des pierres en pain. Et il pouvait le faire. Ce n'est pas interdit qu'il le fasse. Mais en faisant cela, il se détachait de Dieu. Il devenait indépendant de Dieu. Alors, c'était plus possible. Et durant toute sa vie, il a marché dans une constante dépendance de Dieu. Et il nous est dit, alors je crois que c'est un verset que j'ai cité aussi la dernière fois, Jean 8, 29, il faisait toujours ce qui lui est agréable à Dieu. Alors, beaucoup d'auteurs ont pensé qu'étant Dieu, il ne pouvait pas pécher. Alors, Dieu serait-il capable de pécher? Alors, nous lisons dans Jacques 1, 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu ne peut pas être tenté. Déjà, c'est une chose. Ensuite, il ne faut pas oublier que Jésus était aussi pleinement homme. Alors, si on insiste sur sa divinité, on aura une réponse théorique différente que si on insiste sur son humanité. Alors, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Eh bien, c'est simple. C'est qu'il n'a jamais péché. Voilà. Si vous insistez sur l'humanité, vous pourrez dire, ben alors, Dieu ne peut pas être tenté. Si vous insistez sur une humanité, eh bien, c'était un homme, donc il pouvait être tenté. Mais en fait, l'essentiel, c'est qu'il n'a jamais été péché et qu'il était tout à fait Dieu et tout à fait homme. Mais en fait, il y a aussi une explication supplémentaire qui nous aide à comprendre. C'est que dans Jacques 1, 13 que nous venons de lire, le mot tenté en grec a un sens plus large et peut signifier éprouver, mettre à l'épreuve. Alors, donc, dans Jacques, il s'agit clairement de tenter de commettre un péché. Et ça, c'est le diable qui le fait. Tandis que les épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi. Et ça, c'est Pierre qui le dira aussi, hein, 1 Pierre 1,7. Alors, quand nous voyons ce mot tenter, tentation, mais il faut voir si c'est mettre à l'épreuve, hein, ou alors tenter de faire un péché. Dieu ne nous tente jamais de commettre des péchés. Et il nous met à l'épreuve pour que notre foi augmente. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbe 24, 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si vous lisez l'apôtre Paul et ce qu'il a fait, il rend des fois témoignage que sa vie a été très difficile. Et donc, on peut voir, là, par exemple, au début de 2 Corinthiens, au chapitre 1, que Paul a appris par les épreuves à s'appuyer sur la force que Dieu donne. Alors, on peut lire chapitre 1, versets 8 à 9. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà ce que Paul déclare, et qui est un encouragement pour nous, hein, c'est que, à l'extrémité, peut-être prêt à mourir, il se confiait dans le Seigneur, et il savait que Dieu ressuscite les morts. Il va dire à notre endroit qu'il est préférable de partir que de rester sur cette terre. Il préfère être avec Christ, c'est le meilleur. Alors, ici, dans Matthieu, hein, nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu qui a envoyé Jésus dans le désert. Alors, même dans Marc 1, 12, il est précisé, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, par l'Esprit, hein, pour y être tenté par le diable. C'est Jésus. Ce Jésus qui a reçu l'Esprit, Dieu lui rend témoignage, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et l'Esprit l'amène dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est la position, c'est l'endroit, mais c'est le diable qui tente. Alors, finalement, eh bien, pourquoi cela? Eh bien, on peut donner beaucoup de raisons et on n'a pas le temps de tout expliquer, bien sûr. Hein. Mais en fait, il devait entrer librement dans le plan de Dieu. C'est la première chose. Il avait un choix à faire. Et le plan de Dieu pour Jésus était qu'il accomplisse la mission pour laquelle il l'avait envoyé sur la terre. C'est de sauver les hommes. De payer le prix de nos péchés sur la croix. Alors, dans Matthieu, nous voyons les trois tentations qui étaient trois manières d'explorer ce que serait la mission de Jésus et dans quelle relation le Fils de Dieu serait vis-à-vis de son Père. Est-ce qu'il resterait en obéissance intime à son Père ou alors il se passerait un décrochage, un éloignement, quelque chose de grave. Et donc, c'est cette question de la relation qui était primordiale dans cette tentation dans le désert. Alors, je dirais déjà, si elle était primordiale pour lui, elle est primordiale pour nous. Alors, Jésus devait accepter simplement par la foi l'aide, la réalité et la disponibilité de son Père sans se sentir obligé de l'éprouver. Donc, c'est Jésus qui ne veut pas éprouver le Père. Et est-ce qu'il prendrait le chemin facile pour accomplir sa mission? Est-ce qu'il compromettrait sa loyauté avec le Père? Donc, ici, sa tentation ne consiste pas à le faire douter de son statut, hein, fils de Dieu, mais non plus de sa destinée. Je suis venu pour mourir pour les hommes, mais à les utiliser à mauvais escient. Pour Jésus, une relation d'obéissance envers son Père était primordiale, ainsi qu'une relation de confiance et d'absolue loyauté qui le conduirait à refuser tout raccourci et d'être sûr de réussir, en fait, par rapport à ce que disait le diable. En fait, tout ce que le diable l'a proposé, il aurait pu le faire. Mais c'était le diable qui le disait. Mais c'était ne plus dépendre de Dieu. C'était forcer les choses. Il a faim, il peut changer les pierres en ce qu'il veut, hein, en pain. Mais Dieu disait, voilà une épreuve, est-ce que tu comptes sur moi? Tu crois que je vais te laisser mourir? Non. Si vous lisez après, il y a des anges qui le servent, hein, mais parce qu'il a réussi l'épreuve. Mais donc, beaucoup de choses comme ça montrent que Jésus aurait pu faire des miracles, aurait pu agir en conséquence, parce qu'il en avait le pouvoir. Hein. Mais donc, il a réussi parce qu'il fait toujours la volonté du Père, ce qui est agréable au Père. Et donc, par là, il a prouvé qu'il était Dieu. Et la solidité de sa relation avec Dieu, récemment révélée, « Tu es mon fils bien-aimé », a été éprouvée. Et donc, ça c'est la première chose, hein, c'est que il devait entrer librement dans le plan de Dieu. Ensuite, comme on l'a vu la dernière fois, il a dit que le verset qu'il a utilisé pour répondre au diable était un verset qui était destiné à Israël. Vous vous rappelez peut-être, dans Deutéronome, au chapitre 8. Et donc, dans ce passage de Deutéronome, il nous est dit que Dieu a éprouvé son peuple pour montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et donc, pour Jésus aussi, il devait réussir là où Israël avait échoué. Et donc, Israël était comme un fils pour Dieu. Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, a été éprouvé et a réussi. Et ensuite, il devait réussir là où Adam et Ève avaient échoué. Finalement, Adam et Ève auraient pu ne pas pécher aussi. Jésus a réussi et il a vaincu pour nous. Et donc, en étant éprouvé par le diable dans le désert, eh bien, il est le nouvel Adam. Alors ça, c'est dans Corinthiens, hein, nous pouvons le voir, hein, ou dans d'autres passages. Alors, regardons ces tentations en particulier. Matthieu 4, et d'abord, donc, la première, 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc voilà la première tentation. Je l'ai expliqué. Donc, Jésus répond et dit, l'homme vivra surtout de la parole de Dieu. Ensuite, deuxième tentation, versets 5 à 7. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et là, peut-être, il s'agissait de justement à Jérusalem, du temple, de se révéler à tout le monde. Ça aurait été plus facile. Hein. Alors, voilà, Jésus qui descend, et puis hop, il est porté. Et bien, tout le monde croit en lui. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que les hommes croient en son Fils. Et donc, pour lui, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et finalement, eh bien, il a vaincu le diable par la parole « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Parce que Dieu ne l'avait pas demandé, ça. Dieu n'avait pas dit « Tu feras ainsi. » Alors, vous savez comment il est rentré à Jérusalem ? Sur un âne. Hein. Voilà. Et donc, c'est de cette manière qu'il s'est révélé, pas en se jetant du temple. Ensuite, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et donc là, il nous est dit que tous ces royaumes sont donnés à Satan, il règne dessus comme il veut, et il pouvait les donner à Jésus. Mais finalement, c'est pas ça que Dieu voulait pour Jésus. Hein. Et en fait, ça nous rappelle Moïse, qui a pu voir de son mont, de l'autre côté du Jourdain, tout le pays promis, et puis qui n'a pas pu y rentrer. Et lui aussi, il avait jeûné 40 jours. Et puis, ça nous rappelle aussi Élie, qui avait aussi jeûné 40 jours. Et donc, là, tous ces royaumes, un jour, ils seront donnés à Jésus. Il va régner. Tout genou va fléchir devant lui. Mais ce n'était pas là qu'il fallait qu'il obéisse. C'était à son père qui lui avait fait la promesse. Et donc, Jésus a réussi en disant trois fois, il est écrit. Il est écrit. Et je crois qu'il est bien de souvent répondre à certaines personnes comme j'ai pu rencontrer jeudi au marché, de dire, il y a ça, il est écrit. Mais oui, mais il est écrit aussi, ça. Donc il est écrit. Donc, qu'est-ce que c'est qui est vrai ? Ce qui est écrit et qui a le vrai sens dans le contexte, et dans le contexte aussi qui nous est important pour nous. Alors, le résultat, au verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui, auprès de Jésus, et le servirent. » Voilà, en fait, le résultat, c'est que il n'a pas besoin d'aller chercher à manger, mais il est servi par les anges. Et c'est Dieu qui lui envoie les anges. Hein. Voilà. Alors, vous rappelez Élie qui a été nourri aussi. Donc, c'est les corbeaux. Et donc, nous voyons que Jésus, lui qui a multiplié les pains, les poissons, n'a pas obéi au diable, mais à son père. Alors, dans Luc 4, 13, il y a une précision, il nous est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et on peut croire que eh bien, ces tentations, mais, ouais, on en reste là, et puis voilà. Hein. Mais il y a eu la grande tentation, c'est où ? À Gethsémané. Alors là, hein, c'était dur, en approchant de la croix, savoir qu'il allait être crucifié, maltraité par les hommes, et qu'il pouvait aussi éviter la croix. Là, la tentation était grande et Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et donc, il y a eu la dernière tentation. Alors, quelle est la dernière tentation? Eh bien, les gens qui passaient disent, descends de la croix, si tu es fils de Dieu, descends. Oui, il est fils de Dieu. Il pouvait descendre. Eh bien, il ne l'a pas fait. Donc, le diable le harcelait dans les moments favorables. Alors, ce que nous devons savoir et apprendre pour nous-mêmes, c'est que ben, nous aussi, nous sommes appelés à être mis à l'épreuve et à être tentés par le diable. Alors, le diable, il veut nous faire pécher. Mais nous sommes aussi éprouvés dans notre foi. Nous devons l'être. Alors, il y a des choses qui vont nous aider justement à tenir ferme. Alors, je n'en citerai que quelques-unes, hein, mais d'importantes et que vous connaissez, hein, c'est la prière, hein, qui nous aidera à tenir ferme. Et puis, la parole de Dieu, hein, évidemment. Et puis aussi, la confiance en notre Dieu, la foi en lui. Jésus avait la foi en son Père. Il s'appuyait sur son Père. Et nous avons, je pourrais illustrer cela par un exemple dans l'Ancien Testament. C'est un exemple de victoire. Et c'est dans deux chroniques. Hein. Donc, il y a le roi impie d'Israël, Jéroboam, qui veut attaquer le roi Abija, c'est le petit-fils de Salomon, hein, et le fils de Roboam. Et donc, Abija, lui, il va couper un clopin, hein, dans sa foi, mais en fait, là, il va agir de la bonne manière. Alors, Abija avait 400 000 hommes et Jéroboam avait 800 000 hommes. Alors, là, voilà la différence. Deux Chroniques 13, 14, ils crièrent à l'Éternel. Alors voilà. Et puis, résultat, 2 Chroniques 13, 18, les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Voilà. Et donc, résultat, il y a 500 000 hommes sur les 800 qui sont morts dans la bataille. Et donc, c'est ça la chose importante, alors que Abija, on aurait des choses peut-être à lui reprocher, eh bien, à ce moment-là, avec le peuple, ils criaient à l'Éternel et ils remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur lui. Alors dans Proverbe 3, 5, 6, il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si nous sommes soumis à Dieu, nous aurons toujours la victoire. Dans Jacques 4, 7, il est dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de nous, loin de vous. » Éphésiens 6, 11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et vous voyez au verset 13 à 18, les armes du diable, du Seigneur pour lutter contre le diable. Ésaïe 26,3 nous dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Et puis, comme nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, hein, mais juste verset 5, ayez aussi en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est abaissé et qui était humble. Alors, ensuite, ce qui va nous aider, c'est d'être prudent aussi. Il nous a dit d'être prudent et de fuir la tentation. Hein. Et puis, aussi, de nous soutenir les uns les autres. Hein. Si on est seul, on a moins de chances de résister, parce qu'on est faible. Comme une bûche allumée qu'on écarte du feu et qui s'éteint. Mais si elle est avec les autres, elle reste bien allumée pendant plus longtemps. Donc, il est important de nous soutenir les uns les autres. Et puis aussi de nous réfugier dans notre Seigneur qui a vaincu. Alors, Hébreux 2.18 dit, « Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, on peut lire Hébreux 4. Versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, Matthieu 4, 10 nous dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Et donc, peut-être que nous pensons que cette tentation n'est pas pour nous, ne peut pas être pour nous. Mais ça peut arriver aussi justement que, comme Israël, nous adorions des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et ça me rappelle donc, ça m'a rappelé l'histoire du Sadhu Sundar Singh, peut-être vous le connaissez, qui a connu une conversion comme l'apôtre Paul. Et donc, à un moment donné, il était célèbre. Mais sans plus. Et puis, il était pieux, il priait, marchait avec Dieu. Et puis, à un moment donné qu'il priait, il y a quelqu'un qui est venu. Et avec des paroles mielleuses, il lui a dit, « Ah, mais c'est bien ce que vous faites. Bravo pour votre piété. C'est bien que vous portez du fruit. » Mais, en fait, c'est limité. Imaginez si vous étiez le chef de l'islam ou de l'hindouisme. Là, vous seriez un gourou. Tout le monde viendrait à vous et vous pourrez faire plus de bien. Et il a dit, retire-toi de moi, Satan. Tu n'auras que Dieu, lui seul. Il avait compris par ses paroles que c'était une intervention diabolique. Et donc, pour lui, il est resté à sa place, et puis il a rendu témoignage à bien des nations. Et dans les années 20-30, il était très connu parmi les chrétiens, en Europe et en Amérique aussi. Hein. Et donc, il rendait témoignage de sa foi, comme l'apôtre Paul. Alors, on peut lire 2 Pierre 1, ce sera parmi les derniers versets, 2 Pierre 1, et ça c'est au chapitre 1, et c'est une merveilleuse promesse, hein. Il nous est dit, au verset 3 et 4, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et puis, dans Philippiens chapitre 2, et versets 20 à 21, il est dit, non, c'est pas, je me suis trompé, c'est pas ça, c'est un vingtième peut-être. Voilà, c'est 3 à 20, 3 à 20 à 21. Ouais. Chapitre 3, versets 20 à 21. Mais nous, nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et comme nous dit Jean, un jour nous serons semblables à lui, tel qu'il est. C'est ce qui est merveilleux. Parce que Jésus est devenu un homme. Il est Dieu fait homme. Mais il est resté un homme, l'homme Dieu, glorifié. Et un jour, il va apparaître et nous serons semblables à lui avec un corps incorruptible. Alors, pour chacun de nous, c'est une invitation à tenir ferme. Il nous a dit de prendre courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Alors peut-être nous allons prier. Alors, ceux qui veulent rendre grâce peuvent le faire et je terminerai alors.
Amado Padre, gracias por este momento, gracias porque cada uno de nosotros.
Merci Seigneur, parce que chacun de nous.
Buscamos consuelo, buscamos salud.
Nous cherchons la consolation, la santé, le salut.
Buscamos medicina para nuestra alma.
Medicina pour notre. Médicament pour notre âme.
Et tu eres todo eso.
Et tu es tout cela.
Nosotros como obra tuya, Señor, como hijos que conocen la salvación, gracias por la palabra.
Étant ton œuvre, connaissant ton salut, te remercions pour ta parole.
Sabemos que en el mundo hay demonios, fuerzas y poderes que quiere que nosotros no seamos consolados. Ni curado, ni libre.
Nous savons que dans le monde, il y a des forces, des puissances, des autorités qui ne veulent pas que nous soyons consolés, libres. Qui veulent que nous soyons endormis.
Por lo tanto, Señor, yo en esta mañana te pido
Ce matin, je te demande.
Vete, Satanás.
Aïe, de moi, Satan.
El Señor dice que solamente a él adorarás.
Le Seigneur dit que tu adoreras Dieu seulement.
Y a él solo servirás.
Et lui seul tu le serviras.
Tú eres trompiezo a nuestra vida.
Tu es
trompiezo.
Suffisant à notre vie.
Tú nos haces caer. Tú no piensas en las cosas de Dios. Tú piensas en las cosas de los hombres.
Tu penses aux choses.
Jésus, en tu nom, invoco tu bendito nom.
J'invoque, Seigneur Jésus, ton saint nom.
En este momento, nosotros, Señor, tengamos todo aquello que tu promesa en la Biblia dice.
Pour que nous ayons part à toutes tes promesses que tu nous donnes dans ta parole, la Bible.
Porque tú nos has salvado con un propósito.
Parce que tu nous as sauvés pour un but.
Y las personas te buscan con un propósito.
Et les personnes te cherchent pour un but.
Es conocer tu palabra en espíritu y en verdad.
Connaître ta parole en esprit et en vérité.
Así que, Padre, ayúdanos.
Aussi, Père, aide-nous.
A reprender a Satanás.
À rejeter Satan.
Para estar cerca de ti. Arrepentido. Humillado, obedeciendo tu palabra.
À nous repentir, à nous humilier, à obéir à ta parole.
En el nombre de Jesús, amén.
Amen. Oui, Père Céleste, nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as lavé de nos péchés. Aide-nous à être purs. Garde-nous dans ta communion. Aide-nous à marcher dans tes voies, à mettre en pratique ta parole, à résister au diable, à être ferme dans la foi. Seigneur, fortifie ton Église. Protège-la pour l'heure dernière qui arrive, pour les tribulations qui peuvent nous toucher. Interviens, Seigneur. Que nous soyons dans ta main, que nous recherchions ta présence, que nous nous approchions de toi. Seigneur, merci parce que tu as vaincu pour nous et nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous fortifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.